magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre magazine, celui qui vous informe sur les activités des agences du système des Nations Unies et de sa mission en RDC. Voici les principaux titres. L'actualité de la semaine a été dominée par le procès de Minova. Le verdict a été rendu lundi dernier à Goma. Seuls deux militaires ont été condamnés à de lourdes peines. Le sujet a été au centre de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Les détails dans cette édition. Autre centre d'intérêt, c'est l'expulsion des Congolais de la RDC vivant à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ils sont plus de 77 000 à avoir traversé le fleuve Congo dans des conditions difficiles, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Florian Mourier, chargé de projet à l'OIM en RDC, est l'invité de ce magazine. Il indique que la DGM enregistre 5 000 expulsés par jour, parmi eux des enfants non accompagnés. Et une bonne nouvelle, la RDC bénéficiera d'un financement de 700 millions de dollars américains du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le directeur régional de l'ONU Sida en charge de l'Afrique de l'Ouest l'a annoncé lui-même. Le représentant de l'ONU Sida dans le pays en parlera en long et en large dans la rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Deux militaires condamnés à perpétuité, 23 de peines lourdes allant de 10 à 20 ans et 13 autres acquittés lundi dernier à Goma. Dans le procès sur les viols et les pillages perpétrés à Minova en novembre 2012, ce verdict a été au centre d'un échange lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. C'était le mercredi dernier. Jean-Pierre Elali, Coco.
Les journalistes ont répondu nombreux au rendez-vous hebdomadaire. Le débat autour du verdict du procès de Minova a été houleux. D'abord sur la motivation du juge et le sort des victimes. Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir du respect à l'indépendance de l'appareil judiciaire congolais.
La MONUSCO, nous avons un respect entier pour l'indépendance de l'appareil judiciaire. En RDC, nous n'avons pas eu l'occasion de lire et étudier la motivation de la Cour en ce qui concerne la décision du Minova. Et nous attendons voir cette motivation de la décision avant de nous prononcer sur le fond du problème.
Et en même temps, Scott Campbell comprend la déception des victimes et s'engage à mener un plaidoyer pour la réparation des préjudices.
Cela étant dit, nous partageons à 100% la déception des victimes de Minova et les victimes de viols massifs et les victimes d'autres crimes. Et du point de vue des victimes, je pense qu'il est très difficile de comprendre ou de sentir que la justice elle était rendue, compte tenu du fait qu'il n'y avait que deux personnes tenues coupables, comme vous le savez, pour le crime de viol, en face d'une situation où il y a eu des dizaines et dizaines et dizaines de victimes de viol. La MONUSCO reste fermement à côté de l'auditeur militaire qui s'est engagé de continuer les enquêtes, les poursuites. Nous restons certainement à côté des victimes aussi, et surtout pour assurer, faire un plaidoyer pour que ces victimes qui ont reçu, selon la Cour, aussi le droit d'être dédommagées et voir que ces réparations soient rendues concrètes.
Rendre des réparations concrètes, mais dans le fond, le juge dit n'avoir pas suffisamment de preuves pour condamner certains présumés coupables de viol. Non, rétorque la MONUSCO. Des éléments de preuve et aussi un appui technique et logistique ont été fournis aux enquêteurs. Scott Campbell.
Nous avons fourni des éléments à notre possession aux enquêteurs, aux auditeurs militaires impliqués dans cette enquête. Et en plus de cela, on a fourni un appui très important à plusieurs niveaux, au niveau des enquêtes, au niveau de l'assistance technique fournie au procureur, au niveau de la protection des témoins, des victimes.
Selon la procédure en vigueur devant la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, l'arrêt a été rendu en premier et dernier ressort. En clair, il n'y aurait pas appel. Cependant, pour Scott Campbell, l'affaire n'est pas encore close. Il s'est dit encouragé par la détermination de la Cour de continuer les enquêtes, voire des poursuites. Pour rappel, une quarantaine des militaires et des FARDC étaient poursuivis pour des exactions commises en novembre 2012 à Minova et ses alentours, après la chute, bien entendu, de la ville de Goma entre les mains des rebelles du M23.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La République démocratique du Congo choisit parmi les bénéficiaires d'un financement du Fonds mondial 700 millions de dollars américains. C'est le montant de ce financement. Une condition tout de même, la RDC doit contribuer en raison d'au moins 5% de cette enveloppe pour actionner le mécanisme de décaissement. Tous les détails dans cette interview de Mamadou Lanouné Sako, représentant de l'ONU-SIDA en RDC. Une interview réalisée par Honoré Missinga-Kalala.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Un financement de 700 millions de dollars du Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria en RDC. Est-ce encore un effet d'annonce ou c'est déjà une réalité?
Merci beaucoup. 701 millions de dollars, effectivement, seront mobilisés pour une période de 3 ans à partir de 2015 jusqu'en 2017 pour la RDC. Naturellement, ça commence par informer les autorités, annoncer ça et faire les processus pour mobiliser effectivement cet argent. Au moment où nous parlons, l'argent est annoncé et crédité par le Fonds mondial et les différents partenaires donc qui s'occupent de ce suivi. Il y a des exigences qui tournent autour de comment faire pour concrètement mobiliser cet argent, ce que nous appelons l'élaboration des processus de la note conceptuelle révisée. Parce qu'il y avait une note conceptuelle qui a été envoyée au mois de janvier, en fin janvier précisément. Cette note a reçu des commentaires et des suggestions, des recommandations de la part du Fonds mondial. Nous devrons maintenant revoir ces commentaires, les adapter au contexte du pays et les renvoyer encore pour avoir un accord sur comment, où exactement ces fonds seront utilisés.
En d'autres termes, donc, l'argent n'est pas encore disponible, n'est pas encore dans les caisses de la RDC.
Naturellement, dans la coopération internationale, on signe des accords. Quand on annonce des montants ou quand on fait les négociations, l'argent liquide en tant que tel n'est pas tout de suite disponibilisé dans les banques. Il faut des processus, il faut raffiner particulièrement les orientations techniques, les priorités. Quel groupe, quelle province, quel domaine d'intervention, quel résultat atteindre. Surtout et surtout, calibrer la gestion de façon sécurisée, de façon transparente, par rapport aux priorités qui sont définies par le pays. Donc c'est ça qu'on appelle un exercice très 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 douloureux de rédaction, de démonstration de la conviction pour que par saccade, par tranche, les fonds soient mobilisés effectivement. Les fonds, on ne les donne jamais d'un seul coup dans une enveloppe, dans une banque de 701 millions. On les donne pour une période de 3 ans selon ce que j'appelle des avenants précis, des montants clairs. C'est ça qu'on appelle les phases de négociation. Et nous sommes sûrs que ces phases seront immédiatement terminées au plus tard au 15 juin prochain.
Ce n'est pas le premier financement du genre, il y en a eu d'autres par le passé, mais généralement, quelle est la part qui est revenue au sida en termes de pourcentage?
Oui, ce qui est revenu dans ces 701 millions de dollars pour le sida, c'est environ 130-150 millions de dollars. Le palu et la tuberculose également seraient partis, le reste. Mais ce que je veux dire, le sida, effectivement, a un besoin qui dépasse cela. L'apport du Fonds mondial représenterait parfois entre 20 à 25%. C'est un fonds complémentaire par rapport aux besoins. Donc ça ne couvre pas tous les besoins, ni tout le montant nécessaire et qui est à mobiliser dans la lutte contre le sida seulement. Cependant, le financement est très stratégique. C'est un investissement qui vise des domaines particulièrement importants pour inverser la courbe de l'évolution de l'épidémie, pour augmenter le taux de couverture des personnes qui ont accès aux services de prévention et de prise en charge. C'est pour accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire. Bien entendu, le seuil est autour de 2017. Donc, nous sommes sûrs qu'en 2017, nous serons normalement, si les fonds sont bien utilisés, sur la bonne voie d'atteindre les objectifs du millénaire par rapport à la couverture sur les antirétroviraux, par rapport à l'élimination du virus de la mère à l'enfant, par rapport à l'accès à l'information.
Les priorités de l'ONU-SIDA dans ses stratégies portent sur le volet préventif ou le volet traitement?
Les deux. Les priorités que nous visons dans ce paquet, c'est maintenir d'abord les acquis du Fonds mondial que nous avons depuis des années en termes de couverture d'antirétroviraux, en termes également du système de diagnostic, parce que le diagnostic du virus du sida ne couvre pas encore toutes les provinces de façon homogène. En termes également d'élimination du virus de la mère à l'enfant, en termes surtout de suivi stratégique, le socle dans lequel reposent ces programmes mérite d'être très très soutenu, mais surtout également le système communautaire, la société civile, en quoi la communauté participe au continuum de soins, des services de santé au niveau domicile, au niveau de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH ou avec les trois maladies. Donc il y a tout un environnement qu'on appelle renforcement du système communautaire, renforcement du système de santé, renforcement surtout du socle dans lequel reposent les trois maladies. Ça, c'est une nouveauté également. Le volet malaria, tuberculose et VIH ne peuvent être soutenus que si la coordination au niveau du système global de santé a une base solide et pérennisable. C'est pour cela que le fonds incite également à ce que nous appelons le willingness to pay, c'est-à-dire la volonté de contribuer. L'État congolais devra impérativement contribuer jusqu'à hauteur de 5% au minimum ou 15% de ses fonds pour pouvoir accéder à ces fonds. Ça veut dire quoi? Les charges minimales de durabilité, de pérennité basiques devront être prises dans les fonds de contrepartie cette fois-ci. Et ces fonds de contrepartie sont très 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 durs à satisfaire parce que cette fois-ci, le partenaire, le Fonds mondial et l'ONU-SIDA également exigent une preuve réelle, une volonté explicite, signée, appliquée sur le terrain par rapport à ces 5%. Ça également, c'est une nouveauté qui n'était pas très très bien suivie par le passé.
Donc l'État congolais a l'obligation de mobiliser au moins 5%.
Absolument, c'est une obligation fondamentale, même durant la négociation. Il demande ce que nous appelons le « willingness to pay », la volonté de payer certifiée par écrit. Et avec une documentation qui montre que l'État congolais a contribué à valeur de ça. Et durant la mise en œuvre également, nous accompagnons cette clause qui est maintenant totalement révolutionnaire dans l'actuel fonds qu'on appelle le New Funding Model. Dans le nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial, cette clause est particulièrement nouvelle en ces termes d'application. Comment nous avons la preuve que l'État a réellement décaissé au minimum 5%. Il y a également une nouvelle clause qu'on appelle Entity Fund, des fonds supplémentaires basés sur la volonté d'aller plus que ce qui était prévu. Par exemple, nous sommes à 130-150 millions. Si on démontre qu'on a d'autres éléments avec des évidences, on peut encore ajouter plus d'argent qui dépasse les 150 et les 130 millions. Et en l'état où nous parlons, il n'y a que 6 pays qui ont été choisis dans le monde pour tester ce nouveau funding, dont la RDC.
Monsieur le représentant, merci de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Actualité en bref, d'abord le Sud Kivu, 77 réfugiés burundais ont été rapatriés mardi dernier par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Des camions du HCR ont convoyé ces personnes jusqu'au centre de transit de Kajaga à Bujumbura dans la commune de Mutingizi. Selon le chargé de rapatriement à la Commission nationale des réfugiés, Ayuvira, avec ce convoi, le nombre total des réfugiés burundais est passé à plus de 10 000 réfugiés déjà rapatriés depuis la signature de l'accord tripartite entre le HCR, le Burundi et la RDC en 2010. La communauté internationale a célébré du 4 au 10 mai la semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation pour tous. L'UNESCO a naturellement pris part à cette activité. À Kinshasa, cette journée a été lancée jeudi dernier par une caravane motorisée partie du Carrefour des Jeunes à Matongé jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts. Manifestation organisée par la Coalition Nationale de l'Éducation pour tous en RDC, l'UNESCO et d'autres partenaires de l'éducation. Enfin, le 8 mai de chaque année, la communauté internationale internationale célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Selon un communiqué de presse du siège de ces organisations à Genève, plus de 17 millions de volontaires et quelques 80 millions de membres de ces organisations sont actifs auprès d'amis, parents et voisins à travers le monde entier. Le mouvement international de ces deux organisations se compose du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont totalisé déjà plus de 150 ans d'action humanitaire à travers le monde, précise le même communiqué.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Plus de 77 000 Congolais de la RDC ont été expulsés de Brazzaville depuis le 26 avril dernier. 3 000 sont hébergés à l'Extad 24 novembre, dont des enfants non accompagnés et de nombreux sans-papiers attendant leur évacuation vers leur milieu d'origine. 5 000 expulsés arrivent chaque jour. C'est le constat général fait par l'Organisation internationale pour les migrations. Le magazine des Nations Unies reçoit Florian Mourier, chargé de projet à l'OIM RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali. Coco, suivez.
Florian Mourier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bon, depuis deux semaines, les Congolais de Kinshasa sont expulsés de Brazzaville. Des sources gouvernementales parlent de 72 000 expulsés. Est-ce que vous confirmez ce nombre ?
72 000 personnes, 72 000. Oui, c'est les chiffres que m'ont donné hier le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Je confirme.
Généralement, comment se passe le processus lorsqu'il s'agit de ces gens de refoulement? Que fait vraiment votre organisation?
Disons que depuis maintenant le 26 avril, l'organisation a été alertée par ces expulsions. Donc bien sûr, notre première réaction, c'est déjà de vérifier l'information et d'aller voir sur place ce qui se passe. Donc une partie de notre équipe est partie au Congo Brazza, tandis que moi-même et une autre partie de mon équipe, nous sommes allés simplement au beach, au port et ainsi au stade pour constater par nous-mêmes même ce qui se passe exactement.
Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain?
Alors, c'est une très bonne question. Il est important de signaler qu'il est vrai que depuis le 26 avril, on nous a signalé que maintenant nous avons 72 000 personnes qui ont été expulsées du Congo-Brazzaville. Mais ceci ne veut pas dire qu'il y a 72 000 personnes qui sont sur le stade. En fait, ils sont beaucoup moins. Il s'agit surtout d'environ 2 000 personnes pour le moment qui sont en attente de pouvoir retourner dans leur province, qui sont essentiellement l'Équateur et le Bas-Congo. Les autres qui sont arrivés sont en famille, sont à Kinshasa. Donc, encore une fois, le stade ne contient pas 72 000 personnes. Voilà. Donc, l'assistance maintenant humanitaire qui devrait se développer concerne donc encore une fois 3 000 personnes et ce serait essentiellement des besoins en matière d'abri, de nourriture, d'eau et puis d'aide au transport pour retourner dans leur province. Donc, nous estimons que d'ici un mois, ce problème devrait être réglé. Nous restons donc en alerte, le temps de voir comment les choses évoluent. Concrètement, ce qu'on a pu y voir, c'est effectivement des expulsions massives. J'ai discuté avec le chef de poste de la DGM qui nous a donc fait visiter un peu comment fonctionnait l'accueil de ces expulsés. Donc on peut voir que nous avons 5000 personnes qui arrivent chaque jour, ce qui est assez énorme, souvent dans des états de fatigue très avancés, parce qu'il faut savoir que ces gens apparemment restent sur des sites de transit au Congo Brazza durant plusieurs jours, avec très peu d'eau et de nourriture, donc ils arrivent, ils sont très fatigués. Donc là, les agents de la DGM s'occupent rapidement de faire leur enregistrement, et ensuite ils les dispatchent dans des navettes pour le stade où leur famille les accueille. Nous pensons que les expulsions vont encore durer pendant un mois. Le problème qu'ils ont pu constater à leur niveau, c'est que ce phénomène était au départ localisé sur une partie ciblée des Congolais, à savoir ceux qui n'ont pas de papier. Maintenant, le phénomène s'est un peu accentué. C'est comme si les autorités du Congo-Brazza avaient un peu laissé libre cours à des actions individuelles, ce qui fait que maintenant, beaucoup de personnes quittent Congo-Brazza sans motif particulière, à part si ce n'est la crainte.
Il s'agit des raisons politiques ?
On n'a pas encore vraiment d'informations à ce sujet-là, donc je ne peux pas m'aventurer sur ce plan-là, malheureusement. Parmi ces gens qui sont expulsés, bien sûr, beaucoup viennent sans papier, donc il y a une difficulté pour simplement s'assurer qu'ils sont bien des Congolais et pas d'autres nationalités. Il y a eu certains cas d'expulsion où il ne s'agit simplement même pas de Congolais. On nous a parlé de Sénégalais ou de Centrafricains. Il y a également le problème des regroupements, c'est-à-dire des personnes qui arrivent, qui sont mariées, soit avec des gens du Congo-Brazza ou pas, et donc il y a une séparation disparition des familles ou des enfants qui sont nés sans mariage, donc ça entraîne tout à fait d'autres problèmes. Donc tout ça, c'est des problèmes que les autorités actuelles sont en train de gérer. En fait, le problème le plus immédiat se situe plutôt principalement sur les Congolais qui doivent retourner en province. Pour le moment, on estime qu'ils sont environ maximum 2000 personnes. Jusqu'à la fin de l'opération, on s'attend à avoir un maximum de 3000 personnes qui devraient retourner en province. Et donc, c'est surtout ces personnes-là qui vont rester dans le stade, donc sur ce site de transit, en attendant une solution. Ça reste un peu plus compliqué pour ceux qui décident de repartir en Équateur, où là, le gouvernement en train d'affréter, de préparer des bateaux pour utiliser la voie fluviale. Donc maintenant, la réponse de l'OIM, bien sûr, ça a été le constat qui s'est fait sur place. L'OIM est une agence qui est intégrée au système Nations Unies, donc ne travaille pas seule. Nous avons tout de suite établi des liens avec nos partenaires qui sont principalement OCHA, mais aussi UNICEF et d'autres acteurs humanitaires comme MSF. Donc certains acteurs ont proposé des appuis en termes d'eau, de bâches. Il semblerait que le problème de la nourriture ne soit pas encore fixé. Donc peut-être c'est une des réponses que l'OIM va chercher à apporter. Ce qui est sûr, c'est que l'OIM en tant que tel, nous sommes une agence qui ne disposons malheureusement pas de fonds propres nous permettant de répondre immédiatement. Nous avons contacté notre bureau central de Genève et leur avons demandé une enveloppe budgétaire d'urgence afin de pouvoir soutenir les actions du gouvernement.
La somme n'est pas connue ?
La somme est assez faible parce que dans ce genre de cas, on parle d'une enveloppe de moins de 100 000 $. C'est un peu la réponse que peut proposer l'OIM dans l'urgence en attendant de pouvoir développer et rechercher des partenaires qui puissent nous suivre sur un projet beaucoup plus conséquent en ce qui concerne surtout le transport des gens en province. Mais encore une fois, si nous obtenons cette aide de la part de notre bureau de Genève, aide qui est pour le moment étudiée donc à notre siège central, nous aurons certainement de quoi aider le gouvernement pour combler, disons, les besoins ou les petites lacunes qu'ils connaissent actuellement. Mais ma constatation, c'est que le gouvernement a pris des très bonnes dispositions et a pu réagir très rapidement. Et donc à notre niveau, l'appui consistera vraiment à essayer de les soutenir du mieux que nous pouvons, mais un peu à distance, parce que encore une fois, il me semble qu'ils ont vraiment pris les choses en main.
Monsieur Florian Morier, nous vous remercions beaucoup.
Notre nouvelle de province peint un espoir avec une note de crainte à Nabiondo, dans la province du Nord Kivu. Les habitants de cette localité qui avaient fui leur village depuis les affrontements du 30 avril dernier ont commencé à regagner leur domicile. Mais ils vivent encore dans la crainte de nouveaux affrontements. Les affrontements qui avaient coûté la vie à 6 militaires et à une femme le 30 avril dernier. La délégation de la communauté des conseillers militaires et de la police des Nations Unies est en séjour au Nord Kivu. Elle s'est entretenue mardi dernier avec certains cadres territoriaux à Nabiondo sur ce sujet. Bernarda Nyengi a accompagné cette délégation. Il nous en parle.
Tous les quatre sites où s'étaient réfugiés s'est déplacé, à savoir le centre de santé des références de Nabiondo, la base des casquets bleus de la MONUSCO, CEPAC qui changea, et la base MSF, restaient quasiment vides ce mardi. Ce mouvement de retour a commencé hier après une campagne de sensibilisation des autorités locales. Mais dans le village, c'est la psychose. L'administrateur assistant du territoire promet de prendre des dispositions pour rassurer la population. Sokisanda
et
Ambagé.
Le fait qu'il y ait une filtration là où la population est habitée, et aussi ils ont peur dans ce sens. Je vais rester ici pour te une réunion de sécurité avec tout le comité territorial de sécurité.
Après un entretien avec les autorités militaires et politiques de Masisi sur la situation, le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO qui accompagnait la délégation, a promis tout soutien de la mission pour la sécurisation de Nabiondo.
Cela passe par l'écoute des différents acteurs congolais d'abord, de manière à construire ensemble le processus qui permettra de favoriser la restauration de l'État et le désarmement, si possible volontaire, des groupes armés.
Signalons que le commandant du bataillon FARDC Nabiondo a été arrêté pour n'avoir pas prévenu cette attaque des APCLS contre l'état-major de FARDC Nabiondo, a précisé M. Ndayambagé. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Gaston Chitenge Chimbombo. Je suis marié à Graviola Agathe il y a de cela 8 mois. J'ai décroché mon diplôme d'État en 2001. Ensuite, je poursuivais encore mes études universitaires à l'Institut supérieur technique appliqué, Istanbulo. C'est là où j'ai fait l'électromécanique. J'ai décroché mon diplôme de graduat en 2007. Je suis chauffeur au sein des Nations Unies, précisément à Radio Kabi, il y a de cela 3 ans maintenant. Au sein de notre dispatch, il y a 4 shifts, à savoir le 6-14, il y a le 14-22, il y a le 8-17, et puis il y a le 6-22. Ça veut dire que vous entrez le soir pour sortir le matin. Cette semaine qui vient de s'écouler, moi, Fisson, j'ai fait le 14-22. Ça veut dire que mon travail était de déposer les personnels des Nations Unies, de Radio Kabi précisément, dans leur maison. Donc je faisais 3 tours de 15h, 17h30 et puis de 20h30. C'est là le tour où je prenais nos collègues qui devaient me relayer. Avant l'agence, quand je finis mes études de graduat, on a déposé des demandes par-ci, par-là. En attendant qu'on me réponde, j'ai eu à passer dans d'autres business. Après, je me suis retrouvé au sein d'une agence, le manager. C'est une agence de location de véhicules. Comme je savais conduire, et conduire c'était ma passion. Donc, après cela encore, je me suis retrouvé dans un ONG, Leading Women of Africa, s'occuper de l'autonomie des femmes. Donc, comme il n'y avait pas de financement, je me suis retrouvé encore à la maison. Ensuite, je me suis retrouvé encore ici et chez nous, dans la maison Radio Kabi. Après la MONUSCO, j'aimerais continuer mes études de licence, même ici au pays ou ailleurs. Si c'est ailleurs, donc je ferai le management. Comme j'aime bien aussi le business, j'aimerais un jour devenir un grand représentant de marque Toyota. Donc, créer une entreprise de vente de véhicules Toyota ici en RDC. Mes temps libres, j'aime bien faire le sport. Je fais le judo. Je suis aussi maître en judo première dame. Après le sport, qui est le judo, j'aime bien aussi écouter de la musique. L'ancienne musique de Wenge, les anciens succès. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question est de notre confrère Longonia Philemon de la RTGA. Elle porte sur la contribution de Ocha à la prise en charge des expulsés de Brazzaville hébergés à l'Exta du 24 novembre. Vous suivrez ensuite la réponse de Sylvestre Ntumba Mudingai, chargé de communication à Ocha.
C'est Philemon Longonia. Du point de vue humanitaire, sur terrain, au niveau du stade là où se trouvent les expulsés, on dit dire que Ocha devrait aussi intervenir d'une manière ou d'une autre. Qu'à cela ne tienne, est-ce que Ocha, en tant qu'agence qui coordonne le point de vue humanitaire ici en RDC particulièrement, qu'est-ce que Ocha a fait par rapport à ces expulsés qui vivent dans des situations alarmantes? Aujourd'hui matin, déjà on a dit 2 enfants qui sont morts suite à la pluie d'hier parce qu'ils sont sans abri.
Le 1er mai, nous avons conduit une délégation des partenaires humanitaires sur le site du stade pour aller se rendre compte de la situation sur place, voir les conditions dans lesquelles se trouvaient les personnes qui sont installées là-bas. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons eu, toujours avec d'autres partenaires humanitaires, des rencontres avec les responsables aussi bien de la ville qu'au niveau gouvernemental. Au cours de ces rencontres, ce que l'on peut retenir est que le leadership de la réponse à cette situation est assuré par le gouvernement. Le ministre des Affaires sociales a tenu à le redire aux partenaires. Et les partenaires humanitaires sont là en appui au gouvernement, aux institutions de la République, pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter ce qui éventuellement pourrait manquer dans la réponse qu'apporte le gouvernement. Florian vous a dit tout à l'heure, en citant un certain nombre de partenaires, notamment MSF, le HCR, le Fonds des Nations Unies pour en matière de population, qui déjà sur le terrain ont apporté des réponses à la situation de ces personnes expulsées. OCHA assume la coordination. OCHA n'est pas opérationnel sur le terrain et l'action que les partenaires sont en train de mener sur le terrain, c'est OCHA en concertation avec la communauté humanitaire et la partie gouvernementale.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À nos agendas, trois dates à retenir. Le 14 mai, la journée mondiale contre l'hypertension. Le 15 mai, journée internationale des familles. Et le 17 mai, journée mondiale des télécommunications. C'est déjà la fin de ce magazine. Merci à tous de nous avoir suivis. Un magazine supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Au reportage, nous avions honoré Missinga Kalala et moi, Mina Kimbuni. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce magazine avec l'assistance technique du côté de la régie de Sylvain Matundu. Retrouvez l'émission sur www.radiocapi.net. Lisez, écoutez, commentez et partagez. À dimanche prochain et très belle journée dominicale à tous. Au revoir.